Il fait 4 heures à Paris, 3 heures en temps universel.
Antoine Galen.
Après 2 années d'instabilité politique et des tractations compliquées, le Liban a enfin un gouvernement. Nawaf Salam a été nommé Premier ministre. Au Mali, plusieurs dizaines de morts dans l'attaque vendredi d'un convoi dans le nord du pays. On fait le point dans ce journal. Et puis rétro-pédalage, Donald Trump annonce le retour des pailles en plastique. Les États-Unis, deuxième producteur mondial de plastique, vous l'entendrez. Au Liban, un nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salam a été formé. Les États-Unis, la France et les Nations Unies ont salué la nouvelle et espèrent que le Liban se relèvera d'une grave crise économique. Paul Khalife à Beyrouth.
Engager des réformes, instaurer l'état de droit, rétablir la confiance entre le Liban et la communauté internationale et obtenir le retrait israélien du sud du pays. Nawaf Salam a annoncé les grandes lignes du vaste programme de son équipe appelé le gouvernement de la réforme et du sauvetage, essentiellement composé de spécialistes reconnus dans leur domaine. Le gouvernement respecte cependant scrupuleusement des délicats équilibres confessionnels du Liban, mais aussi ses réalités politiques. Nawaf Salam a négocié dur avec les principaux partis et s'est concerté avec eux pour choisir ses ministres, y compris 2 personnalités chiites proches du Hezbollah et 2 autres de son allié le mouvement Amal, dirigé par le chef du Parlement Nabih Berri. La présence indirecte du Hezbollah au gouvernement intervient au lendemain d'une déclaration d'une émissaire américaine à partir du palais présidentiel à Beyrouth. Morgan Ortagus avait insisté sur le fait que le Hezbollah ne doit en aucun cas participer au nouveau gouvernement libanais. Seul le courant patriotique libre, une formation chrétienne fondée par l'ex-président Michel Aoun, ne participe pas au cabinet. L'autre grand parti chrétien, les forces libanaises, se taille la part de lion et obtient pour l'un de ses proches le portefeuille des affaires étrangères. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Le Liban qui dit avoir riposté à des tirs provenant de Syrie dans la zone frontalière, et ce 2 jours après que les nouvelles autorités de Damas ont annoncé avoir lancé des opérations contre les contrebandiers dans la zone. 3 nouveaux otages israéliens ont été libérés par le Hamas en échange de la libération de 183 prisonniers palestiniens. 5e échange prévu par l'accord de cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a envoyé des négociateurs au Qatar pour discuter de la trêve à Gaza. Pendant ce temps, en Cisjordanie, le club des prisonniers palestiniens accuse l'armée israélienne de raids délibérés contre des familles qui attendaient la libération de leurs proches dans le cadre d'un nouvel échange avec des otages à Gaza. Au Mali, plusieurs dizaines de morts dans l'attaque vendredi d'un convoi dans le nord du pays sur la route entre Gao et Ansongo. Un convoi civil escorté par des militaires et des mercenaires russes de Wagner a été visé par des hommes armés. François Mazet, de sources locales, le bilan provisoire est d'au moins 32 morts.
22 minibus, 6 gros bus et 8 camions, c'était un large convoi qui avait quitté Gao pour Ansongo vendredi, encadré par une dizaine de véhicules des forces armées maliennes et des mercenaires de Wagner, selon une source locale. Selon la description d'un rescapé auprès de l'agence France Presse, des hommes armés ont surgi des 2 côtés de la route près de Kobe, une barrière située à 35 km de Gao, gardée par des membres d'un groupe local d'autodéfense. Ils ont ouvert le feu sur le convoi sans faire de distinction, faisant de nombreuses victimes civiles et militaires. Plus de 30 corps sans vie ont été ramenés à l'hôpital de Gao selon plusieurs sources, ainsi que de nombreux blessés, tous civils. Les porteurs d'uniformes ont eux été transportés vers Sévaré, où ils disposent d'un centre médical dédié. Selon un officiel local, les passagers de ce convoi étaient principalement des orpailleurs se rendant vers un site à Intahaka, proche du Niger. Ansongo se trouve dans cette région des 3 frontières, fréquemment endeuillée par des attaques de groupes djihadistes. L'État islamique au Grand Sahara est particulièrement présent dans cette zone, mais aucune organisation n'a jusque-là revendiqué l'attaque. L'armée malienne n'a pas communiqué pour le moment.
En Tanzanie, les chefs d'État des organisations d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe se sont rencontrés à Dar es Salaam pour évoquer la situation dans l'Est de la RDC avec l'agression rwandaise dénoncée par Kinshasa. Jusqu'ici, ces 2 blocs régionaux avaient mené des processus de paix parallèles, mais dans un communiqué conjoint, ils ont demandé hier un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'un accès à l'aide humanitaire à Goma. L'électricité dans les pays baltes ne sera plus russe. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie vont être raccordées dimanche au réseau européen. Un acte de souveraineté pour ces 3 anciennes républiques soviétiques, comme pour l'Union européenne, selon Thierry Bross, spécialiste des questions énergétiques.
C'était la volonté de ces pays qui étaient sous domination de l'Union soviétique de se détacher de la Russie avant la guerre. Et effectivement, c'est une grande réussite de l'Union européenne. On les a aidés et aujourd'hui, ils sont souverains, ils sont indépendants, ils rentrent dans le réseau européen. L'Ukraine l'avait fait, on l'avait fait pour l'Ukraine en plein milieu de la guerre. Là, on l'a fait sur une période un peu plus longue. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être souverain sur son énergie si on veut demain être souverain sur son propre territoire. La Russie est un rival et donc il faut être en capacité d'être indépendant de la Russie et de surveiller nos infrastructures. Malheureusement, sur la Baltique, nous avons eu des incidents. Aujourd'hui, l'OTAN a décidé depuis la mi-janvier de lancer une opération pour surveiller les infrastructures énergétiques en mer Baltique, mais vous voyez que c'est l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. Donc on n'est pas encore devenu un grand acteur complètement souverain.
Au Kosovo, les électeurs appelés aux urnes dimanche pour les élections législatives. En 2021, c'est le Premier ministre Albin Kurti qui avait remporté l'élection. S'il ne remporte pas 50% des suffrages, des discussions en vue de former une coalition pourraient être nécessaires. Élection également en Équateur ce dimanche. Les Équatoriens votent pour renouveler ou non leur confiance au président Daniel Noboa, tenant d'une ligne dure face au cartel talonné par sa rivale de gauche, Luisa González. En France, un homme a été tué et un policier blessé pendant une filature visant une filière de passeurs entre la France et la Grande-Bretagne. L'échange de tirs s'est passé près de Dijon, en Côte d'Or, dans le centre-est de la France. Trois hommes de nationalité irakienne ont été interpellés et un quatrième est toujours recherché. Les précisions de Valérie Cohen.
Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi sur une aire d'autoroute près de Dijon. Deux policiers du RAID, une unité d'intervention spécialisée, avaient pris en filature une voiture immatriculée en Grande-Bretagne, cela dans le cadre d'une enquête pour aide au séjour en bande organisée et association de malfaiteurs, indique le procureur de Dijon. Alors que les policiers se trouvent dans leur véhicule de service, ils reçoivent soudain des tirs d'armes automatiques de la part de deux hommes sortant de la voiture surveillée. Les policiers ripostent. Le véhicule des suspects prend la fuite et est trouvé accidenté une centaine de mètres plus loin. Un homme mortellement blessé est découvert à proximité. Les quatre autres s'enfuient. Trois d'entre eux, de nationalité irakienne et originaire du Kurdistan, ont été interpellés par la suite, notamment grâce à des moyens aériens déployés par la gendarmerie nationale. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire sur un fonctionnaire de police. Le quatrième suspect est toujours activement recherché, précise le procureur. Par ailleurs, un policier a été blessé à la jambe lors de l'échange de tirs. Son pronostic vital n'est pas engagé.
RFI 22h08 à Washington. Fini les pailles en carton aux États-Unis. Donald Trump clame le retour au plastique sur ses réseaux sociaux. Dans la droite ligne de ses déclarations climato-sceptiques et le démantèlement de toutes les mesures en faveur de l'environnement prises par son prédécesseur, Simon Rosé, au-delà des pailles, le sujet n'est pas si anecdotique que ça pour le deuxième producteur mondial de plastique.
C'était un décret signé par Joe Biden, bannir aux États-Unis les ustensiles en plastique à usage unique d'ici 2035. Décret qui fait donc long feu avec cette nouvelle déclaration de Donald Trump qui marque pour le coup son opposition aux politiques environnementales de son prédécesseur et son soutien à l'industrie américaine des hydrocarbures. Le secteur a besoin de débouchés. L'Agence internationale de l'énergie anticipe un pic de la demande en pétrole dans 5 ans dans le monde. En résultera un décalage entre production et consommation. Principalement composé d'hydrocarbures, le plastique est ainsi identifié par les géants du pétrole et du gaz comme une perspective prometteuse. Mais voilà, le monde étouffe déjà sous la pollution plastique. 400 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année. Du fond des océans au sommet de l'Everest, on les trouve partout, même dans le corps humain, dans le cerveau, le sang ou encore le placenta des femmes enceintes. Pour y remédier, un traité international est en négociation, mais les discussions sont compliquées entre partisans d'un texte ambitieux qui veulent limiter la production et les pays qui ne veulent pas en entendre parler, au rang desquels les principaux producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite ou les États-Unis. Une nouvelle session de négociation est prévue cette année.
Du sport avant de fermer ce journal, défaite sur le gong pour l'équipe de France de rugby face à l'Angleterre, 25-26. Un sentiment de gâchis pour Antoine Dupont. Les rêves de grand chelem sont déjà envolés. Le 15 de France se déplacera en Italie le 23 février pour son prochain match. Et puis du football, le Real Madrid accroché par son rival l'Atlético malgré un but de Kylian Mbappé. Match nul 1-1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.